donc à Madame Jenny Keïta qui assure ainsi une bonne transition, j'ai failli dire un bon glissement pour cette période, cette séquence de questions et réponses. Et je vous rappelle donc que nous ouvrons ainsi cette séance de questions et réponses avec, bien entendu, nos amis de Goma, mais aussi de Béni, où se trouve à l'heure actuelle le porte-parole militaire, mais aussi, pour une fois, la salle de conférence ici à Kinshasa est bondée de journalistes. Et nous allons nous focaliser, bien entendu, sur les différentes informations qui ont été abordées. Bien sûr, cette journée mondiale de la population, mais aussi les autres sujets humanitaires, développement militaire, mais aussi l'actualité de la MONUSCO. Voilà, nous allons rester ici à Kinshasa parce que, comme je l'ai dit, la salle est bondée. Nous allons prendre une question avec un journaliste qui n'a pas d'habitude de poser une question. Qui est cet oiseau rare? Est-ce qu'il y en a? Il y en a pas beaucoup, hein. Bon, on va passer le micro. Vous vous présentez et vous posez une question. Pas deux questions, hein. Une question. Non, non, ici à côté, à la porte. Ici, voilà. Ici. Là, là. Voilà. Merci.
Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Koudram Aliro. Je suis correspondant de l'agence de presse turque Anadolu Ajasi.
Voilà un nouveau, on ne l'a pas souvent entendu. Allez-y.
Ok, j'aimerais poser la question concernant la journée internationale de Mandela. Alors, à l'est de la RDC, est-ce que cette journée sera commémorée comme à Kinshasa ou bien il y a quelques modalités que cette journée sera commémorée à l'est de la RDC? Merci beaucoup.
En réalité, l'ensemble des responsables de l'information publique de la MONUSCO à l'est du pays répliquent dans une certaine mesure ce que nous faisons ici à Kinshasa. Et ça ne m'étonnerait pas que, par exemple, je crois que vous m'avez dit vous venez de Béni. Peut-être que notre collègue Alain Koulibaly, qui est le responsable de l'information publique à Béni, envisage ou envisagera en tout cas d'organiser quelque chose. Je sais que dans d'autres localités également du pays, c'est le cas. En général, ce qui se passe ici est un peu répliqué ailleurs sur le continent. Voilà qui peut vous aider. Nous allons peut-être prendre une question à... je voudrais voir des mères de femmes, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui posent. Il y a la journée mondiale de la population. Madame Jenny Keïta Bonne, beaucoup de statistiques sur cette population congolaise. Pourquoi pas, oui. Laissez-les.
Bonjour, c'est Nénette Fomba du journal Opinion. Une question pour le colonel Amouzoun. Colonel, vous êtes à Béni, nous voulons savoir quelles sont les localités où s'opèrent les opérations conjointes FARDC et MONUSCO.
Colonel, c'est à vous à Béni, les localités où il y a des opérations conjointes FARDC Force MONUSCO.
Merci beaucoup. Vous savez, en stratégie militaire, on ne donne pas les localités où se déroulent nos opérations. Toutefois, sachez que c'est aux environs de Béni et localités, et surtout en ville et territoire de Béni. Merci beaucoup.
Nous allons justement peut-être rester à Béni pour prendre une ou deux questions. Béni, première question, c'est à vous. Le micro, s'il vous plaît, à Béni, est-ce qu'on peut entendre la question?
Je suis Yassine Kombi de Kivu 1. Ma question s'adresse au lieutenant-colonel Martin. Pourquoi, pendant qu'on est en train d'assister aux opérations conjointes entre la MONUSCO et les FARDC, les massacres des civils ne s'arrêtent pas dans les triangles dits de la mort?
Colonel?
Merci beaucoup. Comme je l'ai toujours dit, les présumés ADF sont ancrés en territoire de Béni pendant plus d'une vingtaine d'années. Ils connaissent le terrain mieux que nous et ils utilisent la méthode de guerre asymétrique. C'est pourquoi chaque fois, nous appelons la population civile de Béni et territoire de collaborer avec nous. De collaborer avec nous en matière de renseignement, de nous renseigner. C'est eux qui vivent à Béni. C'est eux qui savent comment ces criminels ont l'habitude d'opérer, qu'ils opèrent par surprise et ils profitent des intempéries des fois, ils profitent de beaucoup d'occasions pour opérer. Donc actuellement, nos troupes FADES et MONUSCO sont dans la localité d'Irengeti en train d'opérer contre les prisonniers évidemment de l'ADF. Et j'appelle la population à les encourager, à les renseigner sur les positions, sur les mouvements de ces présumés éléments de l'ADF pour que nous puissions venir à bout de ces éléments. Ce qui est sûr, ce ne serait pas maintenant. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas un truc du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Et venez avec nous ensemble pour que nous luttons contre ces éléments criminels qui vous tuent, qui vous massacre et qui perturbe votre vie à Béni ici. Merci beaucoup.
Merci, colonel. Direction peut-être Goma. On va revenir à Béni tout à l'heure. Hein. Je préfère aller à Goma tout de suite pour prendre une ou deux questions avant de revenir ici, de repartir à Béni. Goma, s'il vous plaît.
Oui, je suis Fabrice Kouga de Blessing FM. Ma question s'adresse au colonel Martin Amouzoun. Mon colonel, le ministre national de la Défense était de passage à Béni. Vous vous êtes vu? Est-ce qu'il y a-t-il un développement dans des stratégies que vous prenez pour venir à bout de l'ennemi? Et le deuxième peut-être volet de ma question, ça concerne les deux éléments qui ont été tués dans les fins fonds du territoire de Béni et qui étaient vêtus en tenue militaire ougandaise. Est-ce que donc actuellement pouvons-nous dire effort que c'est l'Ouganda qui envoie des gens dans les forêts de Béni pour tuer les Congolais? Merci.
Je vais répondre à la deuxième partie de votre question ici à Kinshasa. Quant à ce qui concerne ces deux éléments présumés être des soldats UPDF, donc de l'Ouganda, nous ne sommes pas impliqués dans l'enquête. Vous avez entendu le porte-parole FRDC Marc Azoulay dire qu'une enquête était ouverte et qu'ils allaient mener à bien cette enquête. Nous attendons les résultats de cette enquête. Si, bien sûr, les forces de la MONUSCO sont sollicitées, nous pourrons appuyer éventuellement cette enquête, mais pour l'instant nous ne sommes pas impliqués dans cette enquête concernant ces deux soldats présumés ougandais qui ont été tués donc en territoire congolais. Colonel, c'est à vous pour la première partie de la question maintenant.
Merci beaucoup. C'est hier soir que moi je suis arrivé à Béni. Le ministre est à Béni il y a longtemps. Il est reparti. Moi je suis allé sur le terrain ce matin. Donc moi, en tant que porte-parole militaire de la MONUSCO, je suis au niveau opérationnel. Je ne suis pas à un niveau stratégique. Je ne suis pas à un niveau politique pour discuter avec un ministre de la Défense.
Merci. Donc,
c'est au niveau stratégique de la MONUSCO qu'ils peuvent engager des discussions. Merci beaucoup.
Et puis il revient effectivement au ministre de la Défense de révéler à son niveau s'il y a stratégie, c'est à lui de parler directement. Nous allons revenir ici à Kinshasa. Je vais donner la parole à une dame sur ma droite. À vous, madame, ici, voilà, pour intervenir.
Merci. C'est Christiane Ekambo pour le journal Africa News et le journal des Nations Online. Ma question s'adresse à la représentante du FUNWAP. Je voudrais savoir à combien est-ce qu'on peut évaluer le nombre de la population en 2030. Et les études montrent que plus la population augmente, plus on fait face à plusieurs défis. On a, entre autres, on va s'imaginer que quand il y a un boom au niveau de la population, il y a le problème d'urbanisme qui va se poser. Vous avez parlé du problème de la santé. Il y a le problème, surtout, le problème de la sécurité alimentaire. Que tous ces défis-là, comment est-ce que le fonds, l'organisme qui s'occupe de la population quelles sont le, je voudrais, pour être précise, quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour faire face à ces défis?
Beaucoup de questions en une. Madame Jenny Keïta, parce qu'il a commencé par parler de la projection que vous faites sur l'évolution de la population pour 2030. Ensuite, elle parle de stratégie. Ensuite, elle parle d'autres questions liées aux questions de la population. C'est à vous, madame.
Merci beaucoup. Je pense que c'est une question essentielle. Déjà, pour pouvoir estimer la population en 2030, faudrait-il connaître la population aujourd'hui? Et celle d'aujourd'hui est déjà estimée en RDC depuis 30 ans. Donc, nous avons déjà, je pense, à nous assurer qu'on ait un véritable recensement de la population et de l'habitation dans ce pays. Parce que c'est cela qui va permettre de savoir où sont les populations et ce dont elles ont besoin. Si rien n'est fait, si les femmes continuent à mourir en RDC en donnant la vie, et il y a 846 000 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Si les enfants continuent à décéder, malgré tout cela, la population de la RDC risque de doubler. Alors, si elle est à 80 millions, on risque d'arriver à une population relativement élevée s'il y a à peu près 1 million de nouveaux bébés par an, un peu moins que le Gabon qui naît par an ici en RDC. Ça vous donne une idée de la population à venir. Mais la question pour moi que vous posez est essentielle dans le sens où des êtres sont déjà en RDC, dont ces jeunes filles adolescentes, dont ces jeunes gens. Qu'est-ce qu'on en fait pour que si population il y a, j'adore l'hymne de ce pays, on dit nous peuplerons ton sol Congo. Et je pense qu'il faut continuer à le peupler. Mais il faut le peupler avec des gens qui ont la chance de pouvoir étudier, pour pouvoir bénéficier de services de santé, afin que ces jeunes gens et ces jeunes filles puissent contribuer au développement de leur pays. Je le dis très sérieusement parce que je pense que c'est essentiel. Les gens sont déjà nés, on ne va pas les éliminer de la planète, et on va continuer à progresser. Et à ce jour, la RDC n'est pas en ligne pour atteindre son objectif de planification familiale même. On est déjà en retard. Mais je voudrais aussi... peut-être c'est l'occasion de saluer les actions du gouvernement, puisque dans ce cadre-là, il y a des ressources nationales, et c'est la première fois sur le continent africain, ça se fait partout en Inde, l'Inde met $1 milliard par an pour la planification familiale, oui, vous avez entendu $1 milliard par an, mais ils sont un peu plus nombreux que nous. Mais pour la première fois sur le continent, la RDC a presque autant mis que le Nigeria, mais deux fois moins, $2,500,000 des États-Unis pour pouvoir acheter des produits en faveur des jeunes femmes. Bon, l'argent reste à débourser. J'espère cette occasion, à l'occasion de la journée mondiale adressée à la jeune fille, je pourrai obtenir ces ressources-là de manière effective. Donc la population continue. Il faut la responsabilisation. Mais ce n'est pas que l'État. On a tendance à se retourner vers l'État. Il y a trois partenaires en face. Le premier responsable, c'est l'État, c'est le gouvernement. De mettre en place les politiques et de créer l'environnement favorable aux jeunes. Et vous savez, les jeunes disent ici, ils l'ont répété le lundi, ce qui ne se fait pas avec nous, se fait contre nous. Ils sont dans la salle. J'ai amené des jeunes dans la salle et voilà les recommandations qu'ils ont faites aux trois parties que nous sommes. Un, ils veulent que pour eux, si on veut qu'ils aient un avenir demain, qu'on s'occupe de leur santé, qu'on crée des programmes qui conduisent à des emplois, mais également à un environnement qui leur permette de s'épanouir. Pour le secteur privé, que le secteur privé pense à leur environnement, que les entreprises riches, qu'elles soient minières ou autres, s'assurent qu'il y ait des écoles et des centres de santé dans leur environnement pour que les parents puissent y vivre. Et enfin, pour nous, les Nations Unies, que nous nous assurions d'accompagner les différents États. Donc la population continue à doubler en RDC et il est temps peut-être qu'on y travaille de manière plus sérieuse. Merci infiniment pour la question.
Nous allons rester ici pour prendre une autre question. Madame, oui, vous, où est le micro ? On n'a pas toujours l'occasion d'avoir beaucoup de dames qui posent des questions. Allez-y.
Laetitia Massela, pour le compte de la RTNC2. J'aimerais avoir juste une petite précision. Hier à Goma, dans la ville de la Goma, à 18h, le bureau du FARDC a été incendié. J'aimerais savoir si la MONUSCO a des informations sur l'incendiement du bureau du FARDC à Goma.
Pas à ma connaissance directement. Nous avons eu effectivement l'information comme quoi un des locaux FRDC était en flammes, mais c'est vraiment tout ce que je peux dire à l'heure actuelle. Nous n'avons pas de plus amples informations, je dirais. Nous allons partir à Béni pour prendre une question avant de transiter par Goma et de revenir ici. Béni, c'est à vous pour une question.
Merci beaucoup. À vous.
Voilà, bien. Erika Soumouissi de la voix de l'IUS et correspondant Biwan. Une question au colonel ici en face de moi. Il a dans son intervention de tout à l'heure appelé la population à la collaboration. Un appel toujours effectué par également les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo. Entre-temps, cette population indique et convaincue qu'elle collabore avec les forces et services de sécurité. Et est-ce que cet appel à la collaboration, encore une fois de plus, ne sera pas de trop, car même cette population, à travers la société civile, avait menacé entrer elle-même en forêt pour dédicher ce qui endait la région de Béni.
Merci beaucoup. Merci. Et j'appelle toujours. Et la Monito appelle toujours et encourage toujours la population à collaborer avec les forces de sécurité et de défense congolaise et la Monito afin que nous puissions mieux maîtriser ces criminels de l'ADF qui terrorisent la population. Si de temps en temps les présumés éléments de l'ADF opèrent même des attaques contre les populations civiles, c'est pour les décourager parce qu'ils ont senti que les FADC et la force de la MONUSCO sont en train de travailler ensemble. Un, de vouloir maîtriser le terrain. Deux, et tout ça là grâce à quoi? C'est grâce à la coopération, à la collaboration. C'est grâce aux renseignements que la population nous livre. Donc s'ils arrivent à attaquer de temps en temps, c'est pour décourager cette population et vous dire non, restez avec nous, restez de notre côté, n'allez pas du côté des FADC et de la MONUSCO. C'est une manière de vous décourager. Donc ne vous découragez pas. Continuez. Tout à l'heure j'ai dit que la MONUSCO encourage les populations à poursuivre la collaboration avec les forces de défense, de sécurité congolaise et la MONUSCO. Ne vous découragez pas. C'est une manière, ça fait partie des stratégies, c'est une manière de vous décourager. Hein? Travaillons ensemble pour arriver au bout de ces criminels qui terrorisent la population civile en ville et territoire de ville. Merci beaucoup.
Voilà, merci. Direction Goma. Goma, s'il vous plaît, une question. On a perdu Goma.
Voilà, je suis Denise Boukesso pour le compte de Radio Okapi à Goma. Ma question s'adresse à la représentante de UNFPA, Mme Keïta. Au regard du pourcentage que vous avez présenté, que je n'ai pas bien maîtrisé, vous parlez de 24% de la population de 15 à 18 ans qui vivent en union et 27 qui vivent déjà une vie de procréativité et 3 qui abandonnent le système scolaire. C'est déjà un défi au regard de ces pourcentages. Selon vous, comment UNFPA compte relever ces défis-là au regard de tous ces pourcentages que vous avez présentés? Merci.
Madame Jenny.
Merci beaucoup. Je ne vais pas revenir sur l'exactitude des chiffres, mais ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que il y a 24% des jeunes filles qui vivent déjà en union et 27 qui ont déjà commencé leur vie sexuelle et reproductive, pour parler en termes plus clairs, qu'on a essayé de dire timidement par vie féconde. Et vous, entre les deux chiffres, vous voyez qu'il y a un 3% qui est dans la nature. Et c'est souvent cette population que nous essayons de viser d'abord, parce qu'elle est vulnérable, elle est laissée à elle-même, et elle n'a personne pour s'occuper d'elle. Là, c'est effectivement l'État d'abord, toujours l'État, avant tous les autres partenaires, de prendre cela en charge. D'abord par une protection, un socle de protection sociale nécessaire. Mais pour celles qui sont en union, l'attention que je voudrais attirer, c'est le mariage précoce et les grossesses précoces. Parce que quand elles rentrent trop jeunes, ça leur crée des problèmes de santé. Elles tombent enceintes trop tôt et souvent elles doivent quitter l'école également. et cela, ça met leur vie en danger. Et tout ce qui met la vie d'une jeune fille en danger coûte à la société, coûte à l'économie du pays. Et cet argent pourrait être utilisé à autre chose de plus productif, c'est l'État. C'est ce que je voudrais vous faire retenir. Mais grâce à votre question, permettez-moi de vous demander quelque chose, puisque j'ai la chance d'être ici aujourd'hui, à vous tous journalistes. Pendant cette semaine, si vous êtes de la presse quotidienne ou si vous êtes, quel que soit votre... Essayez dans le domaine qui est le vôtre, même si c'est les FRDC qui vous intéressent et les militaires de la MONUSCO. Une question dans votre domaine sur la problématique de la jeune fille dans une des régions ou une des villes. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Et qu'est-ce que vous suggérez? Parce que nous sommes tous responsables à la fin de la journée. Donc, il y a des thématiques sexy, la jeune fille a l'air sympathique comme ça, mais pour lui donner la chance de grandir, pour qu'on puisse s'occuper de tout, il faudrait que vous puissiez en parler. Et je ne fais pas appel seulement à mes consoeurs ici, je fais aussi appel aux confrères, s'il vous plaît, cette semaine, parlez de la jeune fille. Nous avons lancé dans nos programmes d'activités, il y a énormément d'activités, mais il y a un gala de l'innovation qui va avoir lieu dans quelques jours, il y a un concours qui est lancé auprès de la presse, des jeunes et des femmes. Pour savoir qu'est-ce que vous faites dans ce domaine ou qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ce concours s'achèvera le 12 août, journée mondiale de la jeunesse. Donc c'est vraiment, vraiment important. La jeune fille pour la RDC est essentielle. Elle est maltraitée parfois et la maltraitance n'est pas toujours le viol. La maltraitance pour une jeune fille, ce n'est pas accéder aux soins de santé, ce n'est pas pouvoir aller à l'école. Et surtout, c'est de ne pas pouvoir sauter à la corde ou jouer à la marelle quand il est l'âge de faire ces choses-là. Parce que les autres choses de la vie arrivent. Merci beaucoup, madame.
Et je suis sûr que cet appel à s'intéresser aux questions de jeunes filles sera saisi au bon par les journalistes de Béni, de Goma et de Kinshasa ici. Nous allons rester ici, revenir ici pour prendre une question. Nous avons le... Enfin, bon, oui, ne vous pressez pas, nous allons...
Oui, Guy Oloume, RTNC de Développement. Madame Keïta, j'ai rebondi par rapport à votre appel. Le mariage, devenir mère, semble être la préoccupation pratiquement culturelle des adolescentes dans certains milieux du Congo. Alors, faute d'alternatives, alors, que proposez-vous comme monnaie d'échange? Est-ce que le Fonds des Nations Unies pour la population a-t-elle prévu des centres d'encadrement pour ces jeunes filles? Merci.
Madame Keïta.
Merci infiniment pour votre question. Vous avez parlé de culture mot-clé. Permettez-moi de citer un grand monsieur qui peut-être n'est pas de ce côté du monde mais de l'autre, qui s'appelle Amadou Ampateba. Amadou Ampateba a dit ceci. Il y a des pratiques que nos ancêtres eux-mêmes, s'ils revenaient à la vie, trouveraient caduques et dépassées. J'aimerais qu'on réfléchisse à ça. Ce monsieur n'aime pas n'importe qui. Il a écrit sur beaucoup de choses. Et on a des pratiques qui sont extrêmement positives dans nos cultures. Nous les connaissons et nous devrions les mettre en œuvre. Il y en a d'autres qui sont néfastes, c'est exactement le mot. Et celles qui sont néfastes, c'est celles qui tuent, c'est celles qui dégradent. Et celles qui font du tort, j'allais dire, à l'économie. Ce que nous faisons au Fonds des Nations Unies pour la population, comme je dis, c'est de nous assurer dans les centres dans lesquels nous intervenons, et croyez-moi, la RDC fait 2 345 000 km². Nos ressources ne nous permettent pas de couvrir l'ensemble du territoire, mais heureusement, nous ne sommes pas seuls. Pour donner des soins de santé sexuelle et reproductive, pour donner des cours d'éducation à la vie familiale, pour faire des campagnes que nous appelons TAM-TAM-PF, TAM-TAM Planification Familiale ou Lutte contre le VIH, pour sensibiliser les jeunes, mais aussi leurs aînés, les parents, les professeurs ou les enseignants, et les chefs religieux. Les chefs religieux ne sont pas toujours des hommes. C'est parfois des femmes leaders d'opinion selon les communautés dans lesquelles existent, tout en essayant d'être le plus respectueux que possible des cultures. Donc, votre question est absolument essentielle, mais vous aussi, c'est pour ça que je suis reconnaissante d'être là. La presse, la communication doit aider à faire évoluer. Pas en posant des questions frontales, parce que la culture n'accepte jamais le frontal malheureusement, mais en soulevant des problèmes de société qui nous permettent de les prendre en charge et nous de les transmettre aux dirigeants, parce que nos partenaires, c'est l'État, entre autres choses. Nous travaillons avec l'État et les communautés et pour les amener à faire les bons textes. Mais vous savez que les textes ne suffisent pas, il faut les mettre en œuvre. Et je recommande, c'est mon plaidoyer aussi envers le gouvernement qui a tant fait déjà de continuer à faire parce qu'il n'y en a pas encore assez de fait.
Merci à Madame Keïta. Nous allons prendre une question sur la gauche ici. Je sais que d'un moment à l'autre, nos auditeurs de Radio Capi vont devoir continuer la suite des émissions de Radio Capi, mais nous allons continuer cette conférence de presse avec Madame Keïta et bien sûr tous les autres acteurs impliqués. C'est à vous pour la prochaine question.
Je suis Paulette Sublime et Longa Africa FM. Ma question s'adresse également à Madame Keïta. Vous avez mis l'accent surtout par rapport aux jeunes filles. Mais ma préoccupation est plus en ce qui concerne l'intérieur du pays où les jeunes filles deviennent mères très tôt. Et il y a l'inaccessibilité de l'information et l'inaccessibilité de la santé. Comment allez-vous faire pour pallier à ça? Parce qu'on dit que la jeunesse aujourd'hui, c'est la qui prendra la relève de la société de demain. Merci.
Vous êtes bien servie, Madame Keïta. Allez-y.
Et je suis reconnaissante, vraiment. Je n'ai pas cette occasion une fois par année. L'inaccessibilité est essentielle. Quand je fais appel à vous des médias, c'est que vos antennes parfois arrivent plus loin que les nôtres. C'est pour ça que quand les problèmes viennent vers nous, nous pouvons les traiter. Je vais vous dire le cas de deux jeunes filles de 13 ans qu'on a pris dans des villages. Il se trouvait qu'elle avait déjà, une avait 13 ans, l'autre avait 16 ans. À 16 ans, elle avait déjà eu 3 grossesses. Et ces 3 grossesses, deux enfants étaient nés morts-nés. C'était terminé. Mais le problème, c'est qu'elle-même n'était plus une personne. Ces appareils de reproduction ou de vie ou simplement n'existaient quasiment plus. Donc, vous voyez, ce que nous faisons, j'ai parlé de ce qu'on fait directement envers les jeunes, mais ce que nous faisons aussi, c'est de nous assurer de former les médecins, les chirurgiens, les médecins de campagne, pour qu'ils puissent les prendre en charge et les amener vers les plus grandes cités. C'est pour ça que votre rôle est important. Dans la société, une femme qui n'est plus considérée comme une femme, on la jette, on la traite de sorcière, on la met à côté. Et ça, c'est un véritable, véritable problème. Donc, l'un, c'est la santé. Et pour la santé, comme je le dis, je remercie ce pays qui met de l'argent pour la santé de ces jeunes. Il faut continuer, mais c'est le premier pas. S'il n'y a pas de médicaments pour les jeunes existants, on n'ira nulle part. Deux, c'est l'école. Les jeunes filles et les jeunes gens doivent rester à l'école. Évidemment, l'éducation commence à la maison. Je le dis souvent, les mères souvent sont les premières qui font la différence entre leurs petites filles et leurs petits garçons. Petit garçon, va jouer au foot, toi, viens m'aider à couper les oignons. Et je crois que dès ce départ-là, c'est là où la différence doit se faire et essayer d'harmoniser un peu le besoin d'appuyer son compagnon, sa petite sœur ou sa grande sœur dans les questions de vie de tous les jours. Donc, merci infiniment pour votre question. Et l'information, malheureusement, elle n'est pas accessible, mais ce qu'on appelle les causeries des grandes sœurs ou les causeries des frères dans les villages, c'est ça qui permet la père-éducation. Nous avons beaucoup de réseaux de jeunes qui forment et font passer les relais à d'autres jeunes quand ils sont dans les différents villages. Mais ce n'est toujours pas assez. Merci.
Merci. Je crois que nous allons mettre fin à cette conférence de presse. On vous remercie, Madame Keïta, d'être venue nous entretenir. Et on regrette que vous ne passiez pas beaucoup plus souvent, d'ailleurs, nous voir. Hein. Donc, essayez de venir plus souvent, car j'ai vu les journalistes de Kinshasa, en tout cas, être vraiment accaparés par ce que vous dites. Et bonne semaine à tous et à toutes. À la semaine prochaine. Merci.